territoire. La mise en place des 26 provinces n'a pas été effective au 30 juin 2015, contrairement à ce que prévoyait la loi de programmation. Des commissions avaient été mises en place par décret du Premier ministre pour évaluer le patrimoine des provinces à démembrer. À ce jour, où en sommes-nous avec le processus de démembrement des provinces? Pour en parler, je reçois Maître Gilbert Katsingé, expert en décentralisation. Bonsoir Maître.
Bonsoir Aleiro.
Professeur Moïla Chiembe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Alphonse Maïndo, bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani en province orientale. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, au 30 juin 2015, la RDC devait passer de 11 à 26 provinces, conformément à la loi de programmation. En avril dernier, le gouvernement central avait lancé les travaux des commissions qui devaient installer les nouvelles provinces. Ces commissions avaient 30 jours de travail, sanctionnés par un rapport final à présenter devant les assemblées provinciales des provinces démembrées. Berry Franklin Luchaka pour les détails.
Les travaux des commissions chargées de l'installation des nouvelles provinces de la RDC ont été lancés le 18 avril dernier à Kinshasa. Il s'agit de 6 commissions de 15 membres chacune, chargées de travailler pendant 30 jours pour, entre autres, évaluer le patrimoine des provinces à démembrer. Ces commissions devraient travailler au Bandundu, à l'Équateur, au Kasaï occidental, au Kasaï oriental, au Katanga et dans la province orientale. Un mois plus tard, aucune de ces commissions n'était sur le site d'affectation pour commencer les travaux. Il a fallu attendre le mois de juin dernier pour voir les commissions descendre sur terrain pour se mettre au travail. À l'exception de la province de l'Équateur, où le président de l'Assemblée provinciale a relevé des incohérences dans le rapport de la commission des démembrements de cette province, les autres provinces attendent encore. Signalons tout de même qu'au Kasaï oriental, la commission est arrivée seulement hier mercredi, alors qu'au Katanga, la commission est arrivée lundi dernier. Aux dernières nouvelles, la commission chargée de travailler sur le Kasaï occidental n'est pas encore arrivée. Même chose pour le Bandundu.
Maître Gilbert Katsingé, vous êtes expert en décentralisation. C'est hier que la RDC devait passer de 11 à 26 provinces. Pourquoi, de votre point de vue d'expert, cela n'a-t-il pas été effectif?
Oui, merci beaucoup, Monsieur Alain Runk. Merci également à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en direct. Je voudrais saluer particulièrement les auditeurs de la ville de Butembo, ma très chère ville natale. Et c'est avec vraiment une froideur que je vais aborder le sujet d'aujourd'hui, surtout que j'ai en face de moi d'éminents professeurs d'université en provenance d'horizons divers. Et donc pour attaquer le sujet, je voudrais tout simplement vous dire que la loi de programmation qui a été la conséquence de la révision de la Constitution de 2006, la révision qui est intervenue en janvier 2011, eh bien l'article 226, qui prévoyait un délai butoir de 36 mois à partir de l'installation de la dernière institution politique, à savoir le Sénat, eh bien ce délai-là avait été jugé irréaliste. Il fallait extirper cette notion de délai butoir de la Constitution et prévoir une loi de programmation. Malheureusement, il s'avère que la loi de programmation a aussi péché de la même manière que la Constitution qui a été révisée en prévoyant des délais contraignants et irréalistes, des délais très courts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer en retard dans la mise en œuvre du découpage territorial parce que justement, les délais n'ont pas été réalistes. Et donc, la loi elle-même n'a pas dit que c'était le 30 juin que ce découpage devait être effectif, parce qu'il y avait des étapes. Il y a deux étapes qui sont prévues. Il y a d'abord les provinces qui ne sont pas démembrées, comme ma province d'origine, le Nord Kivu,
le Bas-Congo, le Congo central,
le Bas-Congo, qu'il faut prononcer actuellement Congo central et pas Congo, parce que c'est Congo qui s'écrit avec K, donc le Congo central. Là, il s'agissait tout simplement de changer de nomination. Mais c'est par contre pour les autres provinces qui ont été démembrées qu'il fallait suivre un certain nombre de processus qui commençaient par la mise en place d'une commission par province, province dans son ancien format. Et cette mise en place devait commencer 15 jours après la promulgation de la loi. Cette loi a été promulguée le 28 février 2015. Et donc, 15 jours après, il fallait directement lancer des commissions dans toutes ces provinces-là. C'est déjà un délai irréaliste parce que il ne s'agit pas d'un travail qu'on pouvait confier à la sauvette, à n'importe qui. Il fallait avoir le temps de sélectionner les hommes, 15 personnes par province, de voir comment les faire voyager, de leur donner des instructions suffisantes. Et donc déjà, les 15 jours étaient irréalistes. Voilà pourquoi déjà, même pour nommer, pour mettre en place ces commissions, on a attendu jusqu'au mois d'avril, alors que la loi prévoyait le mois de février. Et donc, la deuxième étape, c'est qu'ils devaient descendre sur le terrain, 30 jours après, remettre leur rapport aux assemblées provinciales des provinces concernées. 30 jours d'un travail harassant qui consiste à faire l'état des lieux, à inventorier le patrimoine immobilier, proposer la répartition de finances, la gestion du personnel. Il y a donc un travail harassant que la commission devait faire et le délai de 30 jours imparti était
irréaliste également. Alors, et donc, maître, on devrait retenir pour vous que le plus grand problème, c'est au niveau des délais.
Le plus grand problème, ce n'est pas ça, c'est sur le plan technique. Mm-hmm. Parce que sur le plan politique, on ne semble pas avoir perçu l'enjeu de cette opération de découpage.
Ou simplement, il n'y aurait pas de volonté politique, comme le pensent certains.
Si, il y a plutôt une volonté politique exagérée. On veut aller vite en besogne dans une
qui
opération.
Qui se transforme en zèle amer.
Voilà, tout à fait, vous avez trouvé l'expression. Et on veut aller vite en besogne dans une opération sans en mesurer le contenu réel. C'est un travail qui aurait exigé au minimum une année. Parce que dresser les temps des lieux, voir en quoi est constitué le patrimoine immobilier, encore qu'il y a des immeubles qui posent problème, il y a le personnel qu'il faut repartir, c'est vraiment
un travail de longue
haleine. Mais le plus grand problème dans tout cela, c'est qu'il y a chevauchement entre le processus électoral qui nous préoccupe tous et les élections quelque peu partielles qu'on devait organiser pour les gouverneurs qui devaient être installés de manière provisoire. Donc, on n'a pas...
Alors, maître, avant que je ne passe la parole au professeur Moïla et au professeur Maïndo, brièvement, peut-on dire que la RDC n'était pas encore prête à accueillir ce démembrement?
La RDC était prête, mais c'est parce qu'on a oublié les recommandations qui avaient été formulées à l'époque où nous étions au ministère de la décentralisation. Nous avions fait adopter devant tous les acteurs concernés par le processus, c'est qu'on a appelé le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Et ce cadre-là prévoyait, n'est-ce pas, une démarche progressive, donc la progressivité dans la mise en œuvre du découpage. Donc on ne peut pas déclencher à la fois ce découpage sur toute l'étendue de la République alors qu'il y a encore des contraintes.
Et que les réalités ne sont pas les mêmes partout. Voilà. Professeur Moïla Tchiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, les 26 provinces n'ont pas été effectives au 30 juin. Quelle est votre analyse? Vous venez de suivre Maître Katsingé, qui parle notamment des délais trop serrés, des délais pas réalistes, notamment.
Ben, disons, Alain, que l'expression tout à l'heure de Maître, sur le plan technique, aussi bien que sur le plan de la volonté politique, rappelle ce que tout le monde sait. Il s'agit là véritablement de rappel de fléaux qui rongent ce pays depuis 1960. Qu'est-ce qu'on voit derrière le fait que la Constitution a été révisée alors qu'elle faisait obligation au gouvernement de mettre en œuvre les provinces 36 mois après l'entrée en scène de la Troisième République. Cette loi a été modifiée sans que l'on sache pourquoi. Et tous ces politiciens politiciens avaient tout simplement peur de voir la République démocratique du Congo entrer de plein pied dans la décentralisation et la régionalisation. Alors, cette peur bleue des politiciens a fait que ces derniers se sont contentés tout simplement de déchirer le papier en renvoyant la responsabilité constitutionnelle au régime de la loi. Et voilà que la loi en question, elle a été bel et bien adoptée, mais voici qu'elle n'est appliquée par personne. Alors, on nous joue la comédie ou, si vous voulez, les tracasseries du temps qui manque. Mais bon sang, gouverner, se prévoir, hein. Prévoir, c'est savoir. On ne peut pas imaginer ce pays 55 ans après l'indépendance en train de tripatouiller dans des organisations comme l'improvisation. C'est le deuxième fléau de ce pays. Et le premier étant naturellement l'absence de l'esprit de loi. Regardez comment la Constitution a été révisée sur ce dispositif. Allègrement, sans qu'on sache. On dirait même en catimini, tout le pays tout entier n'était même pas informé de l'objectif. Tout à l'heure, Maître a dit oui, on a considéré que ces délais impératifs étaient compliqués. Mais c'est compliqué pour quelles raisons? Et depuis qu'on a modifié la Constitution, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, cette désorganisation que l'on voit et cette impréparation, c'est une marque déposée de la République démocratique du Congo et de sa gouvernance, aussi bien sur le plan central que sur le plan périphérique des provinces et des entités territoriales décentralisées. Et l'autre élément de cette difficulté, c'est que ce pays, depuis 1960, est rebelle au consensus. On veut bien dire, Maître a peut-être raison, de dire, ben voilà, le plan de décentralisation, les stratégies est adoptée, tout le monde était d'accord. Mais si vous interrogez la classe politique, opposition et majorité, tout le monde n'est pas d'accord sur la décentralisation. Il y a encore deux voix qui s'élèvent sur le fédéralisme. Les centralistes ont le couteau entre les gorges, menaçant ou supputant la balkanisation de la République démocratique du Congo qui viendrait de ces provinces. Donc, pour dire les choses autrement, la sauce qui nous est servie là, c'est une véritable bouillabaisse à la sauce congolaise, évidemment. On se serait passé à l'époque où le Congo n'avait pas des cadres et des supputations multiples, on voit là un mets tout à fait indigeste. On ne peut pas comprendre, vu d'Europe par exemple, qu'un grand pays comme le Congo, avec toutes les élites qu'elle a, la volonté politique a été exprimée, la constitution a été votée depuis 2006 et révisée depuis, et qu'on soit encore à cette étape de février, on veut faire quelque chose, et la loi de programmation prévoit les nouvelles provinces et leur mise en œuvre. Et Pipo, au mois de juin, bah, y a des gens qui ne sont même pas arrivés à l'endroit. C'est pitoyable, on ne peut pas comprendre ça pour un pays. Le Premier ministre a tout à fait raison de penser à l'émergence du Congo, mais bon sang, quand on voit des choses pareilles, on n'a même pas l'impression qu'il y a quelque chose qui annonce un début de commencement.
Professeur. Professeur Moïla, y aurait-il volonté de torpiller le processus de décentralisation?
Ben, on peut le dire. Il y a probablement le président de la République et quelques personnes autour de lui qui croient au processus de décentralisation et de régionalisation. Vous savez, beaucoup de députés, anciens mobutistes et autres nationalistes, n'ont jamais, depuis 60, n'ont jamais voulu la décentralisation. C'est un jeu d'enfant de se cacher derrière, oui, les délais impératifs nous contraignent à appliquer la décentralisation, excusez-moi, 36 mois après l'entrée en vigueur de la Constitution de 2006, mais pas qu'à trace, les mêmes qui avaient prétendu hier qu'il fallait le faire par là, ils ne le font pas. Donc on retrouve là les vieilles lunes qui, depuis 1960, opposent dans ce pays une bonne partie des élites, qu'il soit que celles-ci appartiennent à la majorité ou à l'opposition, nombre de ces politiciens ne veulent pas de la décentralisation. C'est ça la vérité. Le reste n'est qu'un habillage, un peu de tripatouillage pour faire taire l'opinion. Mais en réalité, on a une classe politique qui, à quelques exceptions près, ne veut pas de la décentralisation. C'est ça la réalité.
Alors, professeur, Maître Kiatsingé a également évoqué un autre aspect. Il y a la question des élections qui mobilisent actuellement toutes les énergies. N'aurait-elle pas volé malheureusement la vedette au démembrement des provinces?
Mais écoutez-moi, les élections, on avait crié à haut sur la CI après les élections de 2006. On a vu une catastrophe avec les élections de 2011, avec la CENI, et on avait tous souhaité de vive voix la révision, ou tout au moins la mise hors état de nuire de tous les goulots d'étranglement qui avaient fait que en 2011, le pays a failli basculer dans le chaos à cause de l'incompétence et l'irresponsabilité de la CENI de M. Ngoï Moulunda. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On est à la case de départ. Cette commission a été reformulée, les nouvelles personnalités ont repris la maison, on a fait appel au vieux routier, le professeur Malou, dont on connaît les qualités, mais où est-ce qu'on en est ? Encore tripatouillage, incompétence, irresponsabilité. On est là à la case de départ, hélas.
Merci. Professeur Alphonse Mahindo, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, province orientale. Vous avez suivi professeur Mwaila qui parle d'une bouillabaisse à la congolaise. Professeur.
Oui, je pense qu'il y a, une bonne partie dans l'argumentation développée par mes deux prédécesseurs qui est valable. Je pense qu'il y a évidemment plusieurs raisons qu'on pourrait avancer par rapport à l'échec du délai. Quoi. On n'a pas pu atteindre le délai qui a été fixé. Il y a des raisons d'ordre technique et logistique qui étaient prévisibles. Ce qui a été évoqué par Maître, c'est notamment le délai qui était trop court. C'est le fait que je peux ajouter qu'on est dans un pays qui est très vaste, qui est aussi grand que toute l'Europe occidentale et sans infrastructure, sans moyens de communication. Si vous mettez en place une commission de 15 personnes qui doivent circuler dans toute la province orientale, qui est très 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 grand, donc sans route, sans train, sans... Alors comment les gens peuvent-ils aller dans différents endroits pour évaluer les différents biens de l'État, faire l'état des lieux pour pouvoir faire ça dans l'espace de temps qu'on a pu prévoir. Non, c'est impossible. Donc quand on voit aussi la question des moyens qui ont été mis en place, qui auraient dû être mobilisés, on peut se poser la question s'il y a véritablement une volonté. Et je pense que le fait également d'avoir d'entamer plusieurs réformes à la fois au même moment, ça fait qu'on est dispersé. On n'arrive pas à bien, si vous voulez, se fixer des priorités et concentrer les moyens pour réaliser l'objectif qu'on se fixe. Donc quand on dit qui trop embrasse, mal étreint, c'est exactement ce qu'on observe en ce moment par rapport à ça. Et peut-être on pourrait aller plus loin quand j'entends certains discours dans certains milieux qui pensent que, en fait, cette tentative de faire maintenant là au forcing que cette réforme territoriale qui n'est pas de la décentralisation. Il faut bien qu'on distingue les deux notions. Parce que j'ai cru entendre tout à l'heure, en écoutant mes deux prédécesseurs, qu'il y avait une espèce d'amalgame entre décentralisation et la réorganisation territoriale qui est en cours. C'est deux notions différentes. Si vous voulez, on peut y revenir après. Donc, je disais qu'on peut aussi aller en écoutant le discours de certains milieux qui pensent que le fait d'entreprendre plusieurs réformes en ce moment, en particulier sur le redécoupage ou si vous voulez la réforme administrative territoriale, la décentralisation du pays, mais aussi sur par rapport aux élections et tout ça, le fait d'entreprendre ça au même moment, ça viserait plutôt à rallonger les mandats politiques des élus nationaux pour faire ce qu'on appelle ici dans ce pays les glissements. Donc on pourrait imaginer ça aussi comme une de raisons non avouées quoi qui pourrait justifier ce qui se passe là.
Et donc
alors peut-être aussi oui
professeur.
Peut-être aussi on pourrait penser au fait qu'il y a une on peut dire qu'il y a une on est la majorité elle-même est divisée hein, sur la question. Alors, quand la majorité qui devait porter la réforme est divisée, donc on peut se douter que ça ne puisse pas marcher. Hein. Je pense que, grosso modo, il y a plusieurs raisons qu'on pourrait invoquer par rapport à l'échec de ce que, disons, pas encore l'échec, mais du fait qu'on n'a pas tenu les délais qui étaient prévus, annoncés.
Professeur, par rapport à la question de la volonté politique, pensez-vous qu'il y avait suffisamment de volonté pour mettre en place ces nouvelles provinces? Professeur Moïl a s'étonné tout à l'heure du fait que ce sont les mêmes personnes qui mettent en place des lois mais qui ne savent pas les respecter.
Oui, alors pour moi, il est évident qu'il y a manque de volonté politique. S'il y avait une réelle volonté politique, on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait déjà mis en place ces institutions depuis 2006. On avait 3 ans pour les faire. Alors, donc, on n'a pas pu le faire en 2009. Je ne pensais pas qu'on pouvait le faire en 3 mois, ce qu'on n'a pas pu faire en plusieurs années. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, on trouve des prétextes. Parce qu'il y a d'autres dispositions qui sont beaucoup plus faciles à appliquer, qu'on n'a pas pu appliquer de la Constitution. Je pense notamment à la caisse des péréquations. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Je pense notamment à la rétrocession de 40% au niveau des entités décentralisées et des provinces, ce qui n'a pas été fait. Voyez-vous, il me semble qu'on est bien loin d'une réelle volonté politique d'appliquer les textes, de faire des changements en profondeur de notre pays, de notre organisation, de notre mode de gestion. On est plus dans les foufouillants pour ne pas faire des réformes, pour ne pas faire des changements. Et souvent, quand on veut faire, quand on prétend faire des réformes, c'est soit pour de motivations politiciennes, c'est soit parce qu'on a des partenaires qui poussent un peu. Alors pour donner satisfaction à ces partenaires, on fait semblant de vouloir réformer. En réalité, on n'est pas vraiment, il n'y a pas de volonté. Sinon, on aurait mis les moyens. Parce que je ne peux pas comprendre que l'on puisse depuis 2006 jusqu'en 2015, aujourd'hui, ça fait quand même 9 ans. Et si dans les 9 ans, on avait commencé à faire des petits pas pour construire des infrastructures, des gouvernements provinciaux au niveau des districts qu'on a transformés en province, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, en fait.
Merci.
Voilà. Donc, pour moi, il manque de la volonté.
Merci, professeur Alphonse Mahindo. Maître Gilbert Kiatsingé, il y a pour vous cette réaction qui nous vient d'Issirou en province orientale.
Olé, Odiane et Douine à Issirou, nous sommes tous pour le démembrement des provinces. Toutefois, je suis surpris de constater que le travail qui devrait être fait pour un mois s'est fait pour 10 jours ou 15 jours. Le grand risque est que la loi refuse que l'Assemblée provinciale engage un débat autour de ces partages en violation du règlement intérieur. Aussi, la Commission n'a pas tenu compte du partage des archives. Évitons la précipitation dans l'état des lieux ou des partages de patrimoine, parce que les semaines qui suivent risqueraient d'ouvrir la voie aux contentieux. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on.
Réaction, Maître Kiatsingé. Il y a par exemple à l'Équateur où le président de l'Assemblée provinciale a signalé qu'il y avait des erreurs dans le rapport déposé par la Commission.
Je crois que nous émettons sur la même longueur d'onde avec l'auditeur de tout à l'heure, ainsi qu'avec tous les éminents professeurs qui interviennent dans cette émission. Et nous sommes d'accord qu'il y a des ratés dans le processus de mise en œuvre du découpage territorial. Mais moi, j'insiste, ces ratés-là, c'est parce que, justement, la loi contient un certain nombre de dispositions qui sont complètement déconnectées des réalités techniques, des réalités sociales, des réalités politiques. Parce qu'il ne faut pas ignorer le fait que le découpage, lorsqu'il sera mis en œuvre de manière effective, eh bien, il va remettre en cause certaines positions. Un gouverneur qui gérait 4 districts se retrouve confiné dans un seul district qui est devenu province. Il ne verra pas d'un bon œil la naissance d'autres provinces, donc les anciens districts qui deviennent des provinces. Et donc, certains notables, certains acteurs politiques vont résistent au changement. Ça, c'est parmi les pesanteurs qui font que, lorsqu'on a réfléchi sur la mise en œuvre du processus, on a estimé qu'il faut privilégier la solution consensuelle. J'ai même été heureux de suivre un jour le débat à l'Assemblée nationale où la question se posait et que, eh bien, on a pensé qu'il faut chercher des solutions consensuelles. Et donc, c'est un débat qui alimente la scène politique actuellement
Et je crois qu'il n'y a personne qui croit que le processus évolue normalement. Mais il ne faut pas être trop pessimiste non plus. Il faut peut-être accepter qu'on n'est pas à la case du départ, comme l'a dit un des intervenants. Il y a quand même un certain nombre de progrès qu'on est en train d'amorcer.
Et que l'on est dans un brouillard entretenu à ce niveau.
Oui, à part le problème des délais, mais on a quand même mis en place des commissions qui sont en train de travailler, et dont certaines ont déposé leur rapport. Eh bien, l'étape suivante, ce sera le démembrement effectif. C'est-à-dire, les assemblées provinciales vont revenir chacune dans son district, dans sa nouvelle province, et on va voir comment commencer la procédure d'élection du gouverneur.
Alors, la question, la précision posée par l'auditeur Paulin Odiané, c'est que, est-ce qu'on ne devrait pas craindre, Maître Katsingé, des contentieux au niveau des nouvelles provinces à cause des erreurs contenues dans les rapports des commissions? Parce que ces rapports sont déposés et l'Assemblée provinciale ne fait qu'entériner sans débat.
Mais le contentieux, ça fait partie de la vie de tous les jours. Même dans le dépôt des candidatures au niveau des élections provinciales, vous avez senti qu'il y avait des contentieux, des problèmes de doublons, il y a des contestations qui vont naître, qui sont prévues. Et donc, il ne faut pas que ces défis-là, ces contentieux éventuels, puissent nous amener à ne pas nous impliquer dans ce processus. Peut-être pouvons-nous étudier à la loupe la question du chevauchement entre ce processus de découpage, de mise en œuvre du découpage territorial avec le processus électoral actuel. Parce que selon le calendrier global que nous avons appelé de tous nos voeux, eh bien, il est prévu qu'au mois de mars, au plus tard, nous ayons déjà de nouveaux gouverneurs, mars 2016. Et si, au lieu d'attendre ces élections, nous devons commencer par les gouverneurs provisoires, qui vont régner pendant, je ne sais pas, un mois ou deux semaines, je ne sais pas, avant de passer aux élections des gouverneurs qui vont avoir un mandat de 5 ans. Je pense que ce chevauchement-là, c'est quand même un problème qui mérite bien d'être approfondi et qui mérite bien qu'on réexamine les termes de la loi et qu'on voit quelle orientation donner à ce processus de découpage territorial.
Professeur Moïla Chiembe, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo, Nord Kivu.
Dans nos dernières villes de Butembo, province du Nord Kivu, la mise en place des 26 provinces ne devrait pas être effective dans le pays n'a pas été insuffisant pour porter ces dernières. Je me demande pourquoi le gouvernement nous a mis dans l'espoir de la décentralisation des provinces pour le 30 juin. Alors qu'ils savaient que c'était possible. Faut-il encore croire au gouvernement du gouvernement? Il demanderait au vice-premier ministre de retirer son décret car ce dernier n'a pas produit de résultats sur terrain.
Réaction, professeur Moïla. Tout à l'heure, Maître Katsingé disait que l'on ne devrait pas être très pessimiste puisqu'il y a quand même des avancées qui ont été enregistrées dans ce processus.
On peut, dans tous les cas, être ou optimiste ou pessimiste. Mais ce qui est surprenant, c'est l'improvisation et les incantations qu'on a sur ce sujet. Nul ne doute, comme le rappelait notre collègue, le professeur Maïndo tout à l'heure, l'étendue de ce pays, 2 345 000 km², c'est connu de tout le monde. Il n'y a pas de secret pour ça. Quand on se pose la question de route, comment envoyer une quinzaine de personnes pour sillonner un territoire si vaste en l'espace de quelques jours, quand on sait que prendre l'avion dans ce pays, c'est un sport qu'il faut mener avec beaucoup de courage. Donc tout ceci est connu. Alors quand on assiste à des ratés, bon, est-ce que cela peut enlever l'espoir? Non, je pense que l'espoir fait vivre, mais on peut souhaiter à tout le moins que les autorités ne renoncent pas à la tâche. Même notre collègue, notre ami de Butembo, qui appelle tout à l'heure, il faut lui dire que non seulement l'espoir fait vivre, mais on peut souhaiter que les autorités de la République, qui ont peut-être pris conscience de l'intérêt de mener ce pays jusqu'à la véritable régionalisation et décentralisation qui est dans la Constitution, la Constitution a été votée par un référendum, donc c'est une obligation des hommes d'État de conduire cette tâche jusqu'au bout, quels que soient par ailleurs les écueils qui sont tout à fait normales. Si nous avons dit qu'il y a un peu de pessimisme en l'air, ce n'est pas pour demander au gouvernement de dormir sur ses lauriers. c'est de lui dire qu'il faut rester veillé, il faut prendre à bras-corps les difficultés et essayer autant que faire se peut de conduire le navire jusqu'au bon port.
Alors, professeur, les Congolais n'auraient-ils pas raison de craindre le pire parce que les prémices semblent mal posées et que l'on risque d'avoir des mauvais résultats?
Ben, on peut craindre le pire, naturellement, parce que, voyez-vous, la CENI, pour l'instant, même dans un des débats qui a eu lieu sur la question de savoir s'il faut un dialogue ou non, on a supputé la question de moyens. Alors, comment voulez-vous? Déjà, le temps manque. Et s'il manque encore les moyens, comment voulez-vous que la CENI, sans moyens, puisse tenir ses propres engagements? Il serait honnête pour M. Malou Malou et l'organisation à la tête de laquelle il se trouve, s'il n'a pas de moyens, de s'adresser au pays, de dire « je ne peux pas, dans ces circonstances, organiser les élections », tout simplement. C'est une question de bon sens. Ça ne sert à rien de bricoler les élections, de le faire à la va-vite, de mécontenter tout le monde, avec le risque, ma foi, de mettre le feu à la maison. Ce n'est l'intérêt de personne de faire les élections pour les élections, afin que le pays tombe dans un chaos encore indescriptible.
Professeur, je vous prie de répondre très brièvement avant que je ne donne la parole au professeur Mahindo, tout à l'heure qui citait parmi les hypothèses le fait que le retard dans le démembrement des provinces profiterait à rallonger le mandat de certains acteurs politiques pour un glissement éventuel. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse, professeur?
Ben, je ne sais pas, puisque vous parlez d'hypothèse, je ne sais pas si c'est quelque chose d'avéré. Y a-t-il quelqu'un dans la maison qui a la certitude qu'il y aura glissement au sens d'aller au-delà des mandats constitutionnels? Je n'en sais rien. Je constate, comme tout le monde, qu'on en parle jour et nuit, tantôt en démentant, tantôt en disant oui, malgré les démentis, ça aura lieu. Ce qu'on peut demander, c'est que les hommes d'État qui gouvernent la République démocratique du Congo, qui savent les obligations qu'ils ont vis-à-vis de la nation, sauront raison garder pour ne pas tomber dans le piège de glissement.
Merci, professeur. Professeur Alphonse Mahindo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Moba Okatanga.
Hypocrisie de Moba Okatanga. Comment peut-on imaginer que l'installation des provinces qu'on avait échoué de réaliser en 36 mois puisse se faire en 120 jours? Tout ce qu'on est en train de vivre était prévisible et nous croyons que tout cela est prémédité car il existe au sein de la classe politique congolaise un laboratoire spécialisé pour embrouiller la bonne marche des institutions et pour ce cas précis, c'est en vue de perturber le processus électoral.
Professeur Mahindo, à ce stade, serait-il précoce de parler déjà d'échec du processus de démembrement des provinces?
Bon, il me semble qu'il est un peu trop tôt de parler d'échec. On peut parler de raté pour le départ, ou le départ manqué, ou peut-être dire, pour reprendre les termes qui étaient en vogue dans les années 70, avec un ouvrage très célèbre de Renan Dumont, qui était « L'Afrique est mal partie », on pourrait dire que la réforme territoriale du Congo est mal partie, peut-être, on peut dire ça, mais dire que c'est un échec, non, on peut toujours corriger à tout moment. On a le temps, on a les intelligences pour ça. Donc on peut toujours sauver la situation.
Alors professeur, pour sauver la situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce stade?
Alors à mon avis, à ce stade, ce qu'il faut faire, il faut d'abord enlever de nos têtes l'idée de se fixer des délais qu'on sait pertinemment bien intenables. Ensuite, il s'agit de se fixer des priorités pour dire voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Il ne faut pas multiplier des réformes à mener au même moment. On choisit une réforme et on mobilise les moyens pour cette réforme et on la conduit jusqu'à son terme. Et si on le fait, par exemple pour ce qui est, si on dit voilà, pour l'instant nous voulons faire la réorganisation territoriale, alors pour les autres, on peut mettre les autres réformes un peu en veilleuse. Et donc alors on va consacrer les moyens là-bas puisque nous n'avons pas les moyens, disons-le clairement. Je l'ai déjà dit et redit plusieurs fois. On a un budget de 8 milliards de dollars, dont la moitié vient de l'aide internationale. C'est pas avec ça que l'on peut faire toutes ces réformes qu'on prévoit de faire, là. en si peu de temps. C'est une mission impossible. Même si on prenait les bons dieux en personne pour les mettre là-bas, ils pourraient pas faire des miracles. Donc, il faut se donner les moyens, se donner un temps pour faire la réforme. Et peut-être, pour moi, il me semble qu'on a manqué un peu le départ dans la mesure où on a reproduit les mêmes erreurs que le pouvoir colonisateur, et cela 60 ans après, 55 ans après l'indépendance, c'est inadmissible. Parce qu'on a simplement, oui, on a simplement repris les districts, on en a fait des provinces, au lieu de repenser les vrais développements. Parce que pourquoi on fait cette réforme? La réforme, on veut la faire pour assurer un mieux-être, un développement local intégré. Alors, on peut le faire que si on repense correctement les entités qui soient viables, homogènes et qui puissent avoir une commune intégrée. Alors, si on devait repenser si on voulait vraiment réussir la réforme, c'est ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire s'asseoir, faire une table rase des frontières internes actuelles et regarder quels sont, au niveau de notre espace territorial, les endroits où les peuples ou les peuvent aller ensemble et qui permettraient d'avoir un développement véritablement endogène. Voilà, on a raté cet espace-là, mais on ne va plus y revenir parce qu'il y a une décision qui a été prise, mais il faut avoir le courage pour remettre en question, pour revoir. Il n'est jamais trop tard.
Professeur, pour revenir à votre deuxième proposition, il faut se fixer des priorités dans les réformes pour éviter de disperser les énergies. En ce moment précis, il y a la question des élections qui se posent avec acuité. Professeur, ne devrions-t-on pas, par exemple, sursoir le démembrement, le repousser à plus tard pour en finir avec la question des élections d'abord?
À mon avis, ce serait une décision tout à fait sage. C'est vraiment le bon sens. Il nous reste quoi pour faire des élections? Il nous reste 6 mois de 2015 et 9 mois, disons 11 mois, ou plutôt 10 mois de 2016. Si vous faites le total, ça nous fait quoi? Ça nous fait 16 mois. Est-ce que en 16 mois, nous pouvons faire toutes les élections qu'on prévoit là? Où est-ce que nous allons avoir les moyens pour faire ça? C'est impossible. Alors, donc, il faut nous concentrer sur ça et mettre un peu de côté cette question de la réforme de l'organisation territoriale qui va nous demander du temps, de l'énergie et des moyens qu'on n'a pas. Merci. Concentrons le peu de moyens qu'on a pour une priorité qui est d'avoir des autorités légitimes et élues.
Merci, professeur. Maître Kiasingé, pour vous, quelles sont les solutions? Professeur Maïn Douane a proposé de éviter le fétichisme des dates en nous emprisonnant dans des délais trop courts et puis se fixer des priorités dans les réformes. Il propose notamment de sursoir le démembrement des provinces pour privilégier les élections.
Oui, moi j'aborde la question avec les lunettes de juriste, malheureusement. C'est qu'en fait, il n'est pas possible juridiquement de proposer que des réformes qui sont prévues par la Constitution. Une Constitution qui a été adoptée par référendum. C'est-à-dire que c'est tout le peuple congolais qui a souscrit à ces réformes-là. Il faut plutôt encadrer leur mise en œuvre. Mais il ne faut pas dire on met des réformes en veilleuse, des réformes qui sont dans la Constitution. Je crois même que les autorités publiques essayent autant que faire se peut de rester dans les limites de ce qui est prévu par la Constitution. Voilà pourquoi, dans une sorte de précipitation, de bonne foi ou de mauvaise foi, je ne sais pas, elles essayent de préconiser des procédures pour que ce qui est prévu dans la Constitution soit effectivement mis en œuvre.
Alors quand vous parlez d'encadrer concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire dans le cas échéant?
Concrètement, je crois que l'avantage de la loi, qui n'est pas la Constitution, c'est qu'elle peut être modifiée dans des procédures simples. C'est au Parlement, on peut vite faire et obtenir la modification de la loi. Je crois qu'on pouvait coupler ce processus avec le processus actuel, le processus électoral actuel. C'est-à-dire, les députés provinciaux qui seront élus d'ici octobre, si le calendrier reste tel qu'il est prévu, ces mêmes députés provinciaux, parce qu'il y en aura par district, Eh bien, ce sont ces députés élus parce qu'il y a un problème de légitimité. Comment voulez-vous demander aux députés provinciaux qui ne sont plus légitimes, qui sont fait mandat depuis plus de 4 ans, d'élire un gouverneur, quelle légitimité il aura? Voilà pourquoi il faut d'abord résoudre cette question de légitimité. Les députés qui seront élus très bientôt, qu'ils aient l'occasion d'élire les gouverneurs dans leur province, dans les nouvelles provinces respectives. Mais en attendant, on pouvait revenir à la formule qui était proposée avant l'adoption de cette loi. La première proposition, le premier projet de loi prévoyait un commissaire général qui devait être considéré comme une autorité de transition avant l'élection des nouveaux gouverneurs, qui pouvait faire l'état des lieux, qui pouvait préparer le lit des nouvelles institutions de chaque nouvelle province. C'est la meilleure formulation de la loi. Parce que celle-ci, elle est déconnectée. Elle sera caduque, elle sera désuète, parce que les dispositions ne sont pas conformes, ne sont pas connectées aux réalités techniques sur le terrain.
Professeur Moïla, pour vous, quelles sont les solutions? Vous avez suivi Maître Kiatsingé et Professeur Maïndo qui ont fait les leurs.
Disons que les difficultés sont énormes, mais là où il y a la volonté, il y a un chemin. Donc on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La réforme est constitutionnelle. Tout homme sensé qui est monsieur pays tout patriote ne peut que recommander que les autorités de la République n'abdiquent pas, quelles que soient les difficultés, de tenir à la réforme constitutionnelle. Les délais constitutionnels doivent être respectés dans l'intérêt du pays et de la paix. Ce qui ne peut pas être tenu peut être différé sans remettre en cause l'intégrité du pays et sa constitution.
Alors, en guise de conclusion, professeur, comment vous entrevoyez la suite du processus, de ce processus de démembrement des nouvelles provinces?
Pour l'instant, c'est une ratée. Est-ce que c'est impossible? Je pense non. Par exemple, les gouverneurs de province nouveaux, s'il faut les aider, dans le projet qui consiste à dire que les députés fin mandat peuvent élire le gouverneur, en droit, il n'y a rien qui les disqualifie. Parce que chaque jour qui passe, les sessions viennent de se terminer en province, ces députés provinciaux ont légiféré. Et ils ont la légitimité liée au fait que, jusqu'à la preuve du contraire, le mandat continue parce qu'il n'y a pas eu les élections pour pouvoir éventuellement les disqualifier. Tant qu'ils sont là, c'est comme les sénateurs. Personne ne peut dire à ce jour qu'on mette les sénateurs à la porte. Mais pourtant, c'est la deuxième chambre qui tient les lois, qui fabrique les lois, et que ces lois ne sont pas, ne peuvent pas être frappées de l'opprobre.
Merci, professeur.
On n'a pas organisé les élections pour que le nouveau Sénat puisse prendre corps, comme d'ailleurs l'a été en 2011 l'Assemblée nationale.
Merci, professeur.
Donc, on peut penser naturellement que si demain on demandait, comme ça a été prévu, à ces députés d'élire un gouverneur provisoire en attendant les vraies élections, personne ne mourrait.
Merci, professeur. Professeur Maïndo, en guise de conclusion, Maître Kiatsingé pense qu'il faut coupler le démembrement avec les élections pour résoudre la question de légitimité.
Oui, je suis pas d'accord avec lui, tout pour la simple raison qu'on ne peut pas, on peut bien élire des gouverneurs ou des députés pour les nouvelles provinces à naître, mais ces gens-là vont siéger où? Vous allez dans un district comme le Bazouélé, il n'y a pas d'endroit où on peut mettre un gouvernement provincial ou une assemblée provinciale. Ça sert à quoi d'élire des gens qui vont siéger sous les arbres ou sous des paillotes? Bon, écoutez, soyons sérieux. On est quand même une grande république.
Merci, professeur. Maître Kiatsingé, conclusion.
Oui, je voudrais tout simplement vous remercier pour la qualité des débats et préciser en fait que les avis que j'ai émis dans ce studio n'engagent pas mon parti, l'AFDC. Je suis au cadre de l'AFDC, mais mes avis sont personnels. Et donc,
voilà, nous vous avons invité comme expert en décentralisation. Ça n'a rien à voir avec ça. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de votre attention. Merci à Guy Maté, Kevin Couté, Berry Franklin Luchak, à Jean-Noël Mokondo qui m'ont aidé à vous présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe. Présentation et coordination, Alain Rung Mouchinj. Au revoir.